Vous écoutez
RMC.
Alors messieurs, évidemment, l'événement ce soir, c'est la mort de Michel Hidalgo, aujourd'hui à 87 ans, l'homme qui a fait aimer le football aux Français, qui a relancé l'équipe de France entre 76 et 84. L'after de ce soir lui sera totalement consacré, on va se remémorer les grands moments de sa carrière. Et si vous êtes trop jeune pour avoir vécu cette période, eh bien on va vous raconter, vous allez voir tout ça. Il y a des histoires extraordinaires, on débattra au 32-16. N'hésitez pas à nous appeler pour partager vos souvenirs de Michel Hidalgo. Le 32-16 est ouvert, le hashtag RMC Live pour nous écrire sur Twitter. Direct Studio sur les applis RMC et RMC Sport. Évidemment, chacun d'entre nous a plus ou moins croisé Michel Hidalgo. Eric, sans doute plus longtemps que nous tous, on en parlera tout à l'heure. Coach Courbis également, qu'il a eu comme coach quand il était en équipe de France junior, figurez-vous. Mm-hmm. Il sera là à 23h, Roland. Pour nous en
c'est
parler.
C'est dur d'imaginer Roland en junior.
Eh ben pourtant.
et ça montre que Roland était un très très beau joueur. Quand il y a une équipe de France junior, quand tu es à Monaco, à l'époque, juste ah après. Oui. Il n'est pas champion, Roland. Il est champion, Roland, ou non?
Oui, je crois. Oui.
Il est champion avec Monaco?
Oui.
Ah oui, en tant que joueur. Oui,
en tant que joueur.
Oui, hein, bien sûr.
Oui, voilà. Donc, oui. Ça veut dire que tu es un grand joueur.
Il fallait déboucher.
Non, mais tout de suite.
C'était pas un poète, à mon avis, Roland.
Ah, c'était. Ouais, non, mais.
Défenseur central.
Ouais, défenseur central, mais qui a fini plus, puisqu'à l'époque, il y avait le stoppeur et le libéro, il a fini plutôt libéro, Roland.
Donc, décroché, quoi.
Bien décroché à la fin. J'ai joué contre lui, d'ailleurs, quand il était à Toulon. Libéro, bien décroché.
On le confondait même avec le gardien à la fin.
Non, mais il envisageait, à cette époque-là, il envisageait l'équipe de France, parce que je crois que dans les défenseurs centraux, à ce moment-là, il y a. Toi, Eric, tu dois mieux connaître, d'ailleurs, Bosquier.
Ouais, Bernard, c'était une star mondiale, Marius. Ouais.
Marius Trésor et Roland. Et d'après des souvenirs de ce qu'il me racontait, il le confirmera tout à l'heure, puisqu'il va être avec nous, il devait être troisième, quatrième, considéré dans les meilleurs arrières centraux entre 72, 73, 74.
Il y avait Jean-Pierre Adams à l'époque.
Oui,
avec
il était dans les meilleurs. Et d'ailleurs, s'il est dans les juniors, il se destine à l'équipe de France. Mm-hmm. Mais après, des choix de carrière et de certaines destinations.
Ah, ben quand il y a un grand-père grec, ça peut.
Ah, oui, là ça aide pas pour rester en équipe de France.
Ouais, ça peut.
Je crois qu'il aurait pu aller en équipe de Grèce, peut-être. Il a raté un truc.
Ouais.
Bon, on en reparle avec lui à 23h. Allez, on va parler de Michel Hidalgo. Tiens, je vais vous faire écouter tout de suite un petit florilège de réactions. Et puis on entendra de nombreuses interviews de Michel Hidalgo qu'il a donné à RMC pendant toutes ces années. Il est toujours disponible. Écoutez aujourd'hui les réactions après l'annonce de son décès de Bernard Lacombe, de Maxime Bossis, Yannick Stopira, Luis Fernandez, Patrick Battiston, Michel Platini. Et à la fin, on entendra même lui-même Michel Hidalgo. C'est parti.
C'était vraiment un ami parce que il essayait toujours de décontracter l'atmosphère quand il y avait des tensions, il y avait quoi que ce soit. C'est un humaniste, quelqu'un qui pour qui le résultat n'était pas la finalité, mais c'était surtout pour lui le plaisir de jouer ensemble avec un football chatoyant.
C'est quelqu'un qui a toujours fait toujours de l'importance à l'humain, à l'être humain, quel que soit le niveau du joueur.
Même les remplaçants, même ceux qui ne jouaient pas. Ils étaient contents. Ils étaient contents de. Parce que cet homme-là était un homme droit, c'était un homme juste. En le perdant, ça fait énormément de mal.
Moi, c'est une grande page qui se tourne, en même temps, une page personnelle. Il y a un retour comme ça en arrière, mais en se disant, ouais, c'était vraiment sympa cette période-là, et c'était des moments magnifiques.
Voilà. Dans ce monde triste en ce moment, c'est pas une bonne nouvelle de plus, quoi. Voilà, sincèrement, on vit des moments difficiles. La France vit des moments difficiles et aujourd'hui c'est un moment encore plus triste pour moi parce qu'on a perdu quelqu'un de formidable.
Mais je ne sais pas faire une hiérarchie dans les bonheurs et dans les joies. Le principal enseignement qu'on peut avoir d'une carrière de 8 ans et demi, c'est qu'il faut beaucoup de patience, beaucoup de persévérance et surtout il faut un consensus pour réaliser quelque chose.
Alors Michel Hidalgo était malade depuis plusieurs mois, très gravement. Hein. D'ailleurs, tous les anciens là, que vous avez entendus avaient pris l'initiative il y a un mois environ d'organiser une rencontre à Marseille. Ils savaient que Michel Hidalgo allait très mal et donc ils voulaient organiser une dernière rencontre tous ensemble. Donc les anciens des équipes de France de 84, 82, 78, ils étaient à peu près tous là. Évidemment, c'était une surprise pour personne de savoir qu'il était très malade et que donc, malheureusement, il fallait laisser attendre à une mauvaise nouvelle, donc qui est tombée aujourd'hui. Et ce que déplorait Michel Platini tout à l'heure également, il était sur RMC vers 18h, c'était de dire que, bon, vu les configurations actuelles liées au coronavirus, ils ne pourront pas se rendre tous à l'enterrement de Michel Hidalgo.
Terrible. Ça, c'est terrible.
Et donc, Michel Platini disait tout à l'heure que d'ores et déjà, il prévoyait, une fois que la crise du coronavirus sera terminée, d'organiser un hommage après, donc, pour Michel Hidalgo, donc dans les semaines qui viennent. Voilà ce qu'a expliqué Michel Platini tout à l'heure. On va quand même démarrer. Il faut qu'on se rappelle quand même de ce qu'était ce gars-là. Parce que, alors, c'est un peu tous notre génération.
On va y passer toute la soirée, de toute façon, messieurs, à rappeler l'importance de cet homme-là.
Je crois que Jérôme est le plus jeune d'entre nous, si je dis pas de bêtises.
Même si ça se voit pas.
Voilà.
C'est pour te rassurer, ça.
Non, mais même toi, Jérôme, tu dois te souvenir que c'est l'homme qui a fait gagner le football français. Est-ce que c'est le truc principal, oui. C'est ça.
Oui, et puis de toute façon, même si en effet j'étais très jeune quand il a eu son heure de gloire, du moins son heure de gloire, il y en a eu plusieurs, mais l'Euro en 84, moi j'avais à peine 6 ans, donc forcément c'est dans les livres et dans les cassettes que tu te rends compte de ce qu'il a pu amener au football, ce que les joueurs, en fait il y a juste à écouter les joueurs qu'il a eu et tous ceux qui parlent de football et qui ont une relation particulière avec lui, voilà, donc c'est il était en avance sur le foot, sur le rôle de management, comment réussir à faire jouer ses équipes. C'était un amoureux du jeu, de toute façon ça se voit à travers les équipes qu'il mettait en place en équipe de France. Voilà, donc bah oui, c'est une grande perte pour le football, même si on avance tous dans l'âge et que tu arrives à un certain âge, forcément tu t'attends au pire au bout d'un moment, mais c'est un jour noir pour le football français, parce que ce monsieur a tellement apporté qu'il faut vraiment, et c'est pour ça qu'on a raison de faire 2 heures sur lui, parce qu'il le mérite tout simplement.
Alors il faut rappeler les gars, on va prendre les choses un peu chronologiquement, hein. Et tout à l'heure on parlera du jeu, on attend Roland pour ça, parce que Roland l'a eu donc comme coach, et Roland va nous expliquer qu'en fait c'était un gars qui avait ses méthodes, et puis surtout c'était un football flamboyant. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Il a eu une première carrière de joueur, il a eu une sélection en équipe de France, Hidalgo, c'était contre l'Italie. Il a eu une carrière de joueur notamment à l'AS Monaco, qui était son principal club, avec Reims. Il a joué une finale de Coupe d'Europe des clubs champions quand même avec Reims, hein, dans les années 50.
Ouais, 56, non ?
Voilà, il met d'ailleurs un but dans ce match. Ouais. Voilà,
de la but de la tête.
Voilà, il perd 4-3, mais il marque. Et puis surtout, il y a cette carrière de coach. Alors, il y a un truc assez étonnant. Alors, je ne sais pas si vous avez l'explication. Moi, j'ai cherché cet après-midi. C'est qu'en fait, il devient sélectionneur sans avoir été entraîneur avant.
Bah, il prend la filière
Et ça, c'est assez
fédérale.
Incroyable, quand même.
La filière fédérale, il prend quand il arrête à Monaco.
Voilà, mais il n'est pas, si tu veux, il n'a pas été entraîneur de club, il n'a pas été entraîneur d'une autre sélection. Et tac, 76, sélection de l'équipe de France.
Alors, il faut recontextualiser l'époque Hidalgo.
Donc là, on est en 76. Ce que tu contextualises.
Il faut quand même. Hier, sans le vouloir, puisqu'on ne connaissait pas la nouvelle, et quand Polo nous a parlé, c'était avant-hier du France-Allemagne. Il faut quand même savoir que c'est Polo qui disait, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en 82, n'oubliez pas que la France, ça ne représente rien du tout dans le foot. Alors imaginez si en 82, ça ne représente rien, ce que ça représentait en 76 quand il arrive. Le football français n'a jamais été aussi bas que quand il arrive. Ça correspond à l'épopée stéphanoise, qui réveille le football en France, qui était un sport mais mort, je veux dire, il y avait les pratiquants, mais c'était même pas des balbutiements, ça n'était rien du tout. Depuis 58, il s'était rien passé, la France était allée à la Coupe du Monde 66, c'était ridicule, personne la suivait, ça ne ressemblait à rien, il se passait pas grand chose. On avait été obligé d'aller chercher un sélectionneur à l'étranger, Stéphane Kovacs, tellement on avait le sentiment qu'il y avait personne qui pouvait diriger l'équipe de France. Et lui, quand il démarre son aventure avec une équipe, on va dire, composée beaucoup de on va dire l'ossature stéphanoise, et qu'il entame cette campagne de qualification pour 78, mais jamais les Bleus doivent aller à la Coupe du Monde, jamais. On n'est même plus habitués, on n'y participe pas, nous, aux grandes compétitions. Et là, il y a cette qualification. Et ça, c'est en fait, quand on doit tous livrer quel est notre sentiment sur Hidalgo, et que Jérôme dit, ça correspond à son âge, de dire, j'ai vu gagner l'équipe de France avec lui. Et non, moi qui a regardé le football vers 7-8 ans par là et qui ai vu ce fameux match contre la Bulgarie, qu'après il y avait eu des BD qui étaient sortis, on m'avait offert les bandes dessinées, cette histoire je l'ai relue 1000 fois, le monsieur foot vous êtes un salaud, le
ça 3-1, c'est 76, hein, Bulgarie-France ouais. 76.
Mais et le match retour qui est qualificatif c'est 77, le match retour le France-Bulgarie 3-1 avec la frappe de Platini-Lucarne, d'Alger, Rocheteau, il y avait des BD qui étaient vendus, il y avait des livres pour raconter cette histoire.
Donc là Daniel en 76 avait déjà 25 ans.
Non, j'avais. Mais tu lis les bandes dessinées, tu te souviens le match. Franchement, le match, quand il pleure avec le caouet bleu, mais je m'en souviens, mais comme si c'était hier. Parce qu'il pleure et je me dis, j'ai conscience, là, je me dis, mais donc, ça a l'air vraiment super important ce que je suis en train de regarder à la maison avec mon père. Là, on regarde l'équipe de France qui gagne 3-1. C'était un événement, les gens en parlaient. Le foot, on a l'impression que c'était réinventé en France. Voilà. Donc, moi, plus que 84, qui effectivement, l'apogée, ça y est, on gagne un truc, c'était carrément, ah ben, le foot existe. Et quand j'étais gamin, moi, à l'école, avec les copains, on se disait, mais tu supportes qui? Moi, j'avais des copains qui disaient, ben, le Brésil. Moi, je crois que pour mes 9 ans, on m'offre le maillot des Pays-Bas. On n'offrait pas les maillots de l'équipe de France, ça voulait rien dire. Ça voulait rien dire. Ouais. On était supporters des sélections étrangères. C'est comme si les Bleus, ça n'existait pas, en fait.
Eric, tu confirmes ?
Bah oui, puisque moi je suis un petit peu plus vieux que Daniel, donc l'arrivée, moi alors il y a eu Georges Boulogne avant, mais moi je me souviens très très bien de Stéphane Kovacs quand il arrive à la tête de l'équipe de France,
puisque
il avait entraîné l'Ajax.
Exactement. Donc j'avais 12 ans, 13 ans à ce moment-là, et moi j'avais un maillot de l'Ajax, Cruyff, les Pays-Bas, c'était la finale de la Coupe du Monde 74, et on était un nain. C'est-à-dire que quand en 78 l'équipe de France va faire la Coupe du Monde en Argentine, je me retrouve à regarder, donc du coup on voyait les matchs. Il n'y avait pas beaucoup de matchs à la télé à l'époque, il faut toujours s'en souvenir, parce qu'aujourd'hui il y avait la finale de la Coupe de France et puis les Coupes d'Europe et puis les compétitions finales, mais c'était la Coupe du Monde, et voir l'équipe de France, puisque j'ai souvenir comme si c'était hier de ce premier match de l'équipe de France contre l'Italie, c'était contre l'Italie, hein, le but de c'est le premier celui-là, c'est le premier en Argentine.
En plus il est dans l'après-midi, donc voilà. Dû rentrer de l'école ou un
exactement
truc comme ça,
voilà, parce que des fois je mélange
juste après l'école, c'était juste après l'école.
Voilà, donc avoir son équipe de France qui fait une compétition finale, il a fallu attendre Michel Hidalgo, puisque on regardait les autres pays, on s'attachait aux autres pays, ou l'Italie parce que c'était le pays de mon père, ou les Pays-Bas parce qu'il y avait mon joueur préféré, mais c'était pas l'équipe de France. Et il a fallu que Michel arrive, et 78, qui est quand même un moment avec une équipe formidable malgré tout, puisque la Combe, les Six, les Platoche déjà, enfin voilà quoi, ça a bercé ma jeunesse, moi carrément. Ouais.
Alors vu qu'on fait cette façon chronologique, on est sur le début, on a ressorti quelques morceaux d'interviews, de témoignages, évidemment le concernant. Il y a une histoire absolument extraordinaire juste avant la Coupe du Monde 78, parce que la Coupe du Monde 78, c'est une Coupe du Monde qui est très controversée, parce que c'est en Argentine, qui est une dictature, et en France il y a un mouvement important de boycott, et on dit il ne faut pas y aller.
Alors déjà, qu'on y allait jamais.
Bah
hein.
C'est ça. Déjà, personne ne se qualifiait jamais. Et là, il dit alors, faut pas y aller, les droits de l'homme. Parce que c'est avec des arguments compréhensibles. Hein. Et là-dessus, Michel Hidalgo, qui est sélectionneur, se fait enlever. C'est pas une blague, pour ceux qui connaissent pas cette histoire. Il se fait enlever par des gens, en fait, qui font partie d'un mouvement contestataire, rapport à l'Argentine et à la dictature sur place. On est là avant la Coupe du Monde, bien sûr. L'enlèvement se termine assez rapidement, parce que, en l'occurrence, les gars qui avaient fait ça semblaient être assez amateurs.
C'est pinicolé.
Écoutez Michel Hidalgo qui en parle, justement, de cette histoire.
Mais on m'a demandé de descendre et de suivre... quelqu'un qui me menaçait avec un pistolet, de le suivre jusqu'au petit bois qui se trouvait à 50 mètres là. J'ai réagi au bout d'une quinzaine, vingtaine de mètres parce que je pensais que c'était quand même qu'il me restait que peu de temps à vivre. J'ai attrapé le canon du revolver et j'ai réussi à le reprendre. Il est tombé par terre, je l'ai repris avant lui et quand il a vu ça, il s'est sauvé et ils sont tous remontés en voiture pour démarrer et s'enfuir. Dans ce cas-là, on se demande où est le sport, que vient faire le sport dans tout cela, et cette grande joie du 16 novembre s'estomper, s'effacer d'un seul coup. Alors, je pensais surtout à ma famille, et je me suis dit, c'est pas la peine d'aller en Argentine.
Voilà. Bon, au final, l'équipe de France, il sera allé quand même, sans briller d'ailleurs. Hein. Ça a été une première compétition, on va dire, pour voir, les gars. Willy, t'as encore rien dit, toi. Tu as bossé en plus à la Fédé, qui Hidalgo a marqué son passage évidemment à la Fédé, où on devait parler de lui. Enfin, c'est une sorte de figure tutélaire pour le monde fédéral.
Oui, oui et non. Après, là, on était sur. Tu le faisais de manière chronologique. En 118, je sortais à peine de là où tout le monde sort, donc c'était un peu compliqué. Non, c'est moi les souvenirs que j'ai sont des souvenirs, oui, de ce que je voyais sur avec mon père quand on regardait des matchs de temps en temps, de cassettes vidéo que j'ai pu acheter avec des. J'ai dû aller, je sais pas, peut-être dans les années 85, 86, avec les magnétoscopes, tu pouvais commencer à acheter des cassettes où on te montrait des matchs un peu plus anciens. Mais il a, quand on dit Hidalgo, c'était le beau jeu. Oui, c'était le beau jeu parce que les équipes sous sa direction avaient toujours une façon claire de jouer. Et ça, c'était assez au-delà du fait que oui, c'était un des premiers à remettre l'équipe de France sur le devant de la scène. Après, on sait aussi que c'est très générationnel le football. Il y a eu Platini aussi, il y a eu Giresse, il y a eu Tigana, trois mecs comme ça aussi brillants en même temps. Alors aussi, oui aussi, mais ça enlève rien du tout à son mérite. Attention, hein. Mais comme je dis, c'est très générationnel. Mais non, c'est surtout
fallait-il les faire.
Voilà, mais c'est ça justement.
Tous ces milieux ensemble et tout. Quand on jouait avec 3-10 et 3 attaquants, encore fallait-il oser le faire.
Voilà, mais c'est justement ça que moi je veux mettre en avant. C'est que il avait des idées de jeu qui étaient claires. Et c'était un des premiers, c'est vrai, avoir des idées aussi claires. Mais d'ailleurs, il en parlait souvent quand il faisait des interviews et qu'on lui parlait de sa carrière, de son passé. Il parlait toujours du même personnage à chaque fois, qui était Albert Batteux. Et Albert Batteux, c'est pour moi, c'est peut-être celui qui a, je veux pas dire qui a inventé le foot en France, mais qui a permis à un moment donné.
Pas loin, Willy, parce que Reims, en fait, c'était le grand pont entre Reims et l'équipe de France.
Exactement, Batteux, Hidalgo, exactement. Et Hidalgo se disait vraiment que ça, il se considérait lui comme un disciple de Batteux, mais surtout à chaque fois. Alors moi, comme je vous dis, il y a une certaine époque que j'ai pas connue, mais dans toutes ces interviews et même à chaque fois que je l'ai vu, moi, il y a une chose qui me frappait, c'était un mec d'une gentillesse, d'une humilité, qui était même d'une discrétion absolue, vraiment aussi d'une discrétion. Combien de fois je l'ai vu dans des soirées organisées, que ça soit par la fédération, que ça soit par le CIF, qui est les internationaux de France, ou par des clubs, c'était à chaque fois, on avait l'impression qu'il était presque timide. Et moi, voilà, moi je suis triste aujourd'hui de la perte d'un homme bien. Voilà, au-delà du grand technicien, c'était un homme déjà bien. Voilà.
Tiens, on va accueillir Christophe avec nous au 32-16 qui est là, qui veut témoigner lui aussi. Salut Christophe.
Ouais, salut à toute l'équipe.
Bon, quel souvenir tu as, toi, de Michel Hidalgo ?
Ben moi, c'est très simple. En 82, j'ai 10 ans, tu vois. Donc, je me rappelle très, très bien. Je me rappelle tout, la Coupe du Monde, le frère de l'émir, tout ça. Je me rappelle très bien. Je me rappelle même le premier but de Brian Robson pour l'Angleterre, le but très rapide, là. Mmh. Voilà. Mais comme disait Daniel, tout à l'heure, je rejoins ce que disait Daniel. 84, c'est la victoire. Mais 82, c'est la renaissance du football français, quoi. Et moi, c'était pareil. Ça m'a fait le même effet. Hidalgo, c'est mon entraîneur de cœur, quoi. Voilà, c'est 82, j'étais minot. En demi-finale, quand on perd contre l'Allemagne, à la fin, je pleure. Je peux te dire exactement l'endroit où j'étais, avec qui j'étais, quoi. Je m'en rappelle, mais comme maintenant, quoi. Ça m'a marqué, mais à vie, quoi. Et là, il y a eu une rediffusion il n'y a pas longtemps. J'ai pas voulu regarder la télévision. J'ai pas regardé volontairement. Mes potes, ils m'ont dit, il y a la rediffusion 82. J'ai dit, non, je ne regarde pas, sinon je vais casser la télé, quoi. Tu vois, c'est.
Figure-toi que Bossy, ça a raté le pédo. Hein.
Non, mais d'accord, mais attends, mais Schumacher, ce qu'il a fait, c'est indescriptible. Eric, c'est un enfant de cœur.
Il n'a pas fait exprès.
Voilà.
Selon Paulo Breiter, il n'a pas fait exprès.
Il n'a pas vu, bien entendu, quoi. Voilà. Donc c'est du grand n'importe quoi. Mais moi, ça m'a traumatisé quand j'ai mis l'eau. Quand t'as 10 ans, que tu rêves, que tu vois tes bleus là, qui sont en train de gagner et tout, que tu penses qu'on peut gagner la Coupe du Monde, parce qu'on avait l'équipe pour la gagner, je pense. On avait vraiment l'équipe pour la gagner. Et quand tu vois ça à la fin, quand t'es mis l'eau, t'as tes illusions qui partent, quoi. Tu pleures, voilà, et ça te marque à vie, quoi. Et
moi, alors attends, on avait l'équipe pour la gagner. Attention, hein, c'est que c'était une sacrée surprise d'aller jusqu'en demi-finale déjà. Je suis pas sûr que. A posteriori, tu te dis, on avait une belle équipe, mais enfin, sur le moment, c'était aller en demi-finale, c'était exceptionnel.
Dis-moi, il y a deux matchs qui m'ont marqué dans l'histoire du football français, ça paraît bête. On met les Coupes du Monde et tout, cette chose. Il y a celui-là, deux matchs. Il y a un an et l'autre, c'est Eric, il jouait dans ce match-là. C'est pas la finale à la Coupe d'Europe, c'est le match trois jours après, c'est le 29 mai 93 contre Paris à Marseille. Ça, c'est le deuxième match qui m'a marqué. Et Basile a marqué un but de la tête d'anthologie, il est 18 mètres. Et moi, j'étais au virage nord, et Basile marque devant nous, quoi, pleine lucarne. C'était un truc de malade. C'est les deux matchs qui m'ont marqué, quoi, voilà.
Bon, ben, très bien, Christophe, merci à toi.
Merci, et bon courage à tous. Et surtout, un message à tout le monde. Arrêtez de faire les cons et restez chez vous. Voilà.
Très bien, bah comme Eric, comme Daniel, Jérôme et Willy, tout le monde. Voilà, il n'y a que moi qui suis en studio, hein, donc, mais c'est pour la bonne cause.